des chips et des lèvres.
Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter.
Des chips et des lèvres sur Radio Gâtine.
Quelle solution au problème des jeunes d'aujourd'hui ?
Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes, vous êtes dans Des Chips et des Lèvres, votre émission culture favorite pour cette édition du mois de novembre qui va être excellente, comme d'habitude. De toute façon, est-ce qu'il y a eu un moment où elles étaient moins bonnes ? Je ne sais pas, à vous de me le dire. Bon, bref, c'est l'émission du mois de novembre et au menu du jour, nous aurons de la musique, des anecdotes, un live exclusif et une interview avec Thomas Gerley à l'occasion de la sortie de la compilation Hommage à Woman Fire de The Strokes, parce que ça fait 20 ans que l'album est sorti. Oui, ça fait qu'on est vieux. Donc du lourd, on va pas s'ennuyer. Et donc on va commencer tout de suite, en parlant de lourd, avec Idols. Le groupe de post-punk anglais sort le premier single extrait de leur 5e album studio qui prendra la suite de l'excellent Crawler. Ça s'appelle Tanked et ça sortira le 16 février chez Partisan Records. Dancer est avec le grand, le mythique James Murphy. James Murphy, c'est un peu mon dieu de la musique avec Damon Albarn. Si un jour je peux l'interviewer, le rencontrer, je pense que j'arrêterai. C'est la fin. Vous savez, le fameux « Après ça, on peut mourir tranquille » de Thierry Roland en finale de Coupe du Monde 98. Et bah là, ça sera pareil. Une fois que j'aurai fait James Murphy et Damon Albarn, bon bah voilà, on pourra aller là-dessus. Bref, on revient à Idols. Le titre s'appelle Dancer, il est en featuring avec James Murphy et Nancy Wong de LCD Sound System. On écoute tout de suite Idols et Dancer. Vous êtes toujours dans Des Chips et des Lèvres et c'est une excellente idée. On va enchaîner comme Cool Chen avec le groupe Egyptian Blue et le titre Salt. On les avait découverts avec le single Matador et le groupe de Brighton continue de nous faire plaisir avec un post-punk années 70, donc fin des années 70, parce qu'avant, évidemment, ça n'existait pas. Les guitares sont vives et mélancoliques, il y a un chant qui est au fil du rasoir. Le titre parle de ce quotidien qui se répète inlassablement et qui te bouffe, t'empêchant de rêver. Le fameux métro, boulot, dodo, ou embouteillage, dodo, boulot, ou comme tu l'appelles. Bref, Egyptian Blue réclame du sel dans l'existence plutôt que du sel sur les pattes, et à l'écoute de leur musique, moi je dois avouer que j'ai envie de pogoter un peu, histoire de mettre un petit peu de sel dans ma vie, en fait, tout simplement. Donc on écoute Salt d'Egyptian Blue, c'est très chouette, vous allez adorer. C'était Salt 2 du groupe Egyptian Blue. Alors Egyptian Blue, ça peut paraître un peu mystique et tout. Non, c'est juste le nom d'un groupe de baryton. Mais bref, on passe à autre chose. On passe, nous allons traverser l'Atlantique pour aller à Montréal rencontrer un jeune groupe punk du nom de No Wave, composé de Sam Sussman, Angel Parra et Cyril Arvin. Influencé par NoFX et Death From Above 79, ça faisait très longtemps que j'avais pas prononcé le nom de Death From Above 79, un excellent groupe que je vous conseille. C'est un peu vieux maintenant, ils ont arrêté, mais écoutez-les. Bref, No Wave nous propose un punk mélancolique, furieusement mélodique et énergique, parce que oui, on peut être mélancolique sans faire une folk chiante comme du pain sans fromage. Oui, vous le savez, il y a deux choses, deux genres musicaux que j'ai du mal à apprécier. La folk et le reggae. Et la folk, moi je trouve ça, je sais pas vous, mais moi je trouve ça chiant comme du pain sans fromage. C'est... on s'ennuie quoi. Mais bref... On s'ennuie pas du tout en écoutant No Wave. Et donc, on va écouter leur single qui s'appelle Missing All. C'est une petite pépite. C'est un groupe très, très peu connu. Mais vous allez voir, on risque d'en entendre parler. On écoute tout de suite No Wave et Missing All. C'était Missing All du groupe No Wave. Et nous, c'est le moment, me semble-t-il, de nos histoires. Virgule, Père Castor, Coco de Berdy.
Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Raconte-nous deux histoires, Père Castor. Père Castor.
Et donc, pour cette petite édition du Père Castor, j'aurai trois petites histoires à vous raconter. Enfin, donc oui, trois, dont une un peu plus longue, mais bon, bref. Alors, on va commencer tout de suite avec une anecdote que vous pourrez ressortir lors de vos apéros. Est-ce que vous savez, donc là, vous connaissez la légendaire bière d'œuf de la série de The Simpsons, où Homer en boit des litres à la volée quand il est au bar et autres. Et mais, est-ce que vous savez pourquoi la bière d'œuf s'appelle d'œuf ? Et bah en fait, tout simplement, en hommage, ou pas, ça dépend comment on le prend, au bassiste du groupe Guns N' Roses, qui s'appelle Duff McKagan. Et en fait, ce qui est arrivé à Duff McKagan, le bassiste des Guns, c'est que son pancréas a littéralement explosé en 1994 à cause de sa consommation excessive d'alcool. Et depuis, Duff donc, ne boit plus que de la bière sans alcool. Et donc, sa légendaire addiction a donné le nom. Alors, c'est un hommage ou pas? En tout cas, c'est assez marrant que la bière que boit Homer et se saoule avec depuis 20 ou 30 ans, je ne sais pas combien de fait la série, ça vient d'un mec qui a arrêté de boire. Voilà, ça c'était la première anecdote qui est assez marrante, je trouve. Enfin, marrante, encore une fois, est-ce qu'une addiction c'est marrant, Julien ? Non, je ne crois pas. Bref, on va en passer une qui est du coup un peu plus croquignolesque, un peu plus amusante et qui pour le coup ne parle pas d'addiction ou presque. Alors, on va parler du groupe Korn que vous connaissez sûrement, qui est un groupe de néo-metal qui a beaucoup cartonné dans les années 2000. Là, ils vieillissent un peu, mais bon, ils sont toujours là, hein, un peu comme Limp Bizkit. Faudra qu'on en parle un jour de Limp Bizkit. Bref, Korn. Alors, vous savez pourquoi il s'appelle Korn ? Eh ben, au début, il voulait s'appeler Korn, C-O-R-N. En hommage à je ne sais plus quoi, j'ai pas le nom. Alors, ce qui est assez marrant, c'est la façon dont ils ont décidé de l'écrire et pourquoi ils ont décidé de l'écrire. Ils ont remplacé le C par un K pour faire un peu plus stylé et ils ont mis le R à l'envers. Donc, si vous regardez sur le logo de Korn, le R est à l'envers. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, parce que ça les faisait marrer, parce que c'était en lien avec l'enseigne de magasin de jouets Toys R Us et tous les membres du groupe ont travaillé à Toys R Us parce qu'ils n'avaient pas de thunes et qu'il fallait bien travailler quelque part. Et donc, le logo qui a été conçu par Jonathan Davis, le chanteur, vient de Toys R Us, tout simplement. Voilà. Et dernière anecdote qui est un peu plus, comment dirais-je, un peu plus forte, qui a eu plus de retentissement, qui est peut-être un peu plus connue d'ailleurs, même si ça commence à faire un petit peu longtemps. En 1996, Jarvis Cocker, donc le chanteur et leader de Pulp, s'est fait remarquer en montant sur scène au Brit Award à Londres pendant la prestation de Michael Jackson. Alors pourquoi il a fait ça ? C'est parce qu'il souhaitait marquer son opposition au King of Pop qui était à l'époque soupçonné de pédophilie. Bon, là maintenant on sait plus ou moins qu'il n'était pas tout blanc et que ses accusations étaient assez fondées, accusations dont il a réussi à se défaire avec un gros chèque. Bref, donc Jarvis Cocker, ça te dérangeait un peu qu'on mette en avant un pédophile, même si c'est le King of Pop, ça reste quand même un pédophile. Donc il est monté sur la scène des Brit Awards pendant la presta de Michael Jackson pour un petit peu l'emmerder. Voilà. Et du coup, il y a eu une plainte déposée par Michael Jackson et son entourage, et le chanteur de Pulp a passé la nuit au poste de police de Kensington en accusation de voies de fait contre les enfants présents sur scène. Alors, je sais, j'ai plus les images en tête, je pense qu'il voulait les protéger, bref. Et il a été. Donc, il y a son avocat qui est venu, il est sorti, tout ça. Finalement, il ne s'est rien passé. Il y a eu quand même une grosse, grosse controverse suscitée par l'histoire et dans le reste du monde. Parce que bah, du coup bah, c'est quand même Michael Jackson et tu t'attaques quand même à une idole, donc vous pouvez imaginer, même si à l'époque en 96 il n'y avait pas de réseaux sociaux, comment les fans de Michael l'ont pris et comment ils ont détesté Pulp. Mais en l'occurrence, la controverse a permis de faire grimper les ventes d'albums de Pulp. Le groupe est ensuite parti dans les tournées des stades du Royaume-Uni et en fait il y avait plein de gens qui, même s'ils n'étaient pas fans de Pulp à la base, même si Pulp c'est un super groupe, on lançait une campagne qui s'appelle Justice for Jarvis. Et même, il y a des gens qui ont demandé que Jarvis Cocker soit anobli pour son acte de courage. Alors, donc, comme vous en doutez, Elisabeth II a pas répondu à l'époque et il n'y a pas eu de Sir Jarvis Cocker. Mais en l'occurrence, c'est assez intéressant de voir comment ça a polarisé. Il y avait les pro-Jarvis Cocker, qui d'ailleurs finalement n'a rien eu hein, en fait. Hein, il y a eu une plainte, mais elle a été classée, il a été débouté, il n'y a pas eu de problème en l'occurrence. Mais il y a quand même eu tout le monde entier qui a dit oui, mais c'est qui ce mec qui vient emmerder le roi de la pop, Michael Jackson. Voilà, et donc pour le coup, comme moi je trouve que c'était quand même un geste assez classe, et puis parce que j'ai envie de l'écouter, parce que c'est une de mes chansons favorites, on va s'écouter Common People de Pulp, qui est un titre, comme son nom l'indique, qui parle des gens normaux. Et alors en fait, l'histoire de ce titre, c'est une personne riche qui rencontre quelqu'un de plus pauvre et qui veut que la personne pauvre lui fasse découvrir son monde à lui, son quotidien. Et voilà. Et donc en fait, c'est un peu une lutte des classes dans le texte. C'est un titre qui est même étudié à la fac, dans les facs, parce que Pulp, c'est vraiment un groupe culte. Donc on va s'écouter Common People de Pulp. Vous allez voir, c'est un titre qui est génial.
She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. Coca-Cola, she said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went and fled to barbershop. I cut your hair. Stop it, oh yeah. You'll never live like common people.
C'était Common People de Pulp. Et alors, je voulais revenir sur cette fameuse anecdote. Donc, pour être totalement précis, Jarvis Cocker, quand il est monté sur scène, ce qui a posé aussi problème, c'est qu'il a montré... En fait, il déconnait avec son claviériste, parce que bah en fait il y avait toujours ces accusations, et Michael Jackson, il était monté sur les scènes pour chanter le titre Earth Song, et c'était avec des gamins, donc c'était très 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 malaisant. Du coup, il a dit bon, malaise pour malaise, allez hop, banco la caravane, j'y vais. Et en fait, il est monté sur scène, et comme il savait pas quoi faire une fois qu'il était monté sur scène, il avait réfléchi au fait de monter et pas d'aller au reste, bah il a montré son cul. Donc voilà. Donc c'est ce qui est arrivé. Et bref, ça s'est très bien terminé, puisque comme je l'ai dit, bah, il ne s'est rien passé par l'arrière. Et surtout, ça, il voulait montrer quel malaise il y avait, parce qu'apparemment, tous les témoins de la scène expliquent que c'était très très malaisant, cette histoire de Michael Jackson en blanc, très christique, avec des enfants. C'était un peu chelou, donc il fallait faire quelque chose. Et encore une fois, le rock'n'roll a montré la voie. Et Jarvis Cocker a montré la voix. Merci encore à lui. Donc, bon, voilà, moi, vous avez bien compris que j'avais pris fait et cause pour Jarvis Cocker. Bref, c'est la fin de notre session par Castor. On retourne à la musique. C'est parti.
Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor.
Et je vous propose maintenant de vous mettre dans les oreilles une petite pépite pop rock en italien, s'il vous plaît. Ça s'appelle Tu mi distrai, et l'artiste c'est Indaco, c'est un tout jeune artiste, auteur, compositeur. Et c'est un truc qui est très pétillant, je trouve, qui est un truc qui va vous réveiller le matin, qui va vous faire du bien. Évidemment, ça parle d'amour. Tu mi distrai, ça veut dire tu me distrais. Hein, vous avez vu, j'ai jamais fait d'italien. J'ai regardé sur Google. En même temps, faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que tout me distrait, ça me distrait. Évidemment, donc c'est comment un jeune homme est distrait, est chamboulé, a des papillons dans son ventre parce qu'il voit une jolie jeune fille qu'il apprécie fortement. Voilà, on écoute Tout me distrait de Indaco. Vous allez adorer.
È dura avere dei sogni, quanto fa male capire che più delle volte no, non andrà bene, o almeno non proprio come volevi te. Perché quando tu mi guardi negli occhi, mi dimentico di tutto il resto. Le mie mani ti stringono forte per la paura di perderti presto. Quante volte mi sono girato per vedere se eri ancora lì. Quante volte poi sono tornato per la paura di perderti. E dopo tutto questo tu mi guardi così confusa, così innocente, come fossi solo io quello pazzo, come se non fosse mai successo niente. Tu mi distrai, poi te ne vai, torni quando ti fa comodo tornare da me. Ti senti sola, mi chiedi di stare insieme. Tu mi distrai, poi te ne vai, torni quando ti fa comodo tornare da me. Ti senti sola, mi chiedi di stare insieme. Giro in due senza il navigatore, su una moto sotto il sole di luglio. Entrambi persi ma seguendo il cuore, tra i sorrisi e qualche dubbio su cosa fare del nostro futuro. Chissà per quanto sarai qui con me. Io ho già 20 anni e non sono più sicuro di volere ancora crescere. Io ora non so più cosa fare. Credevo d'essere certo di ciò che volevo. Credevo tu mamma sia che fossi sincero. Tu mi distrai, poi te ne vai, torni quando ti fa comodo tornare da me. Ti senti sola, mi chiedi di stare insieme. Tu mi distrai, poi te ne vai, torni quando ti fa comodo tornare da me. Ti senti sola, mi chiedi di stare insieme. Tu mi distrai, poi te ne vai, torni quando ti fa comodo tornare da me. Senti sola, mi chiedi di stare insieme. Tu mi distrai, poi te ne vai, ritorni quando ti fa comodo tornare da me. Ti senti sola, mi chiedi di stare insieme.
J'ai l'honneur et l'avantage de recevoir Thomas Guerlet, que j'ai affectueusement surnommé le Baxter Dury français. Il a sorti son premier album « How Strange to Be Anyone » l'année dernière. Elle vient de nous parler d'une compilation de reprises de l'album « Woman Fire » des Strokes pour les 20 ans de la sortie de l'album, ce qui fait que moi je deviens vieux. Thomas, bonjour!
Salut Julien, ça va?
Ça va, ça va. Merci de nous accorder cette interview. Alors, du coup, ce que je te propose, c'est d'abord de parler un petit peu de la compile, de comment ça s'est fait, puis ensuite de parler de toi, de ce que tu vas faire. Parce que là c'est plutôt particulier, parce que d'habitude, quand on reçoit les artistes, c'est le moment de la sortie de leur album. Toi, il est sorti il y a un an. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir parler de comment il a été reçu, de l'entre-deux, de ce que tu vas faire après et tout. Voilà. Mais bon, revenons à la compilation de reprises de l'album des Strokes. Comment ça s'est passé? C'est le label qui t'a contacté. Comment ça a été? Comment toi? Et puis, comment ça s'est passé globalement?
Écoute, en fait, c'est assez spécifique parce que figure-toi que, en gros, les Strokes, c'était un truc assez important dans ma vie. Ça a toujours été. Et ça a même été un truc assez déclencheur dans pas mal de relations autour de moi, notamment avec, par exemple, mon manager, le mec avec qui je travaille, qui s'appelle Vito Messina. Et Vito, qui travaille aussi pour un label, qui est le mien également, qui s'appelle Zouane Musique, et pour une autre maison d'édition qui s'appelle GM Musique. Et GM Édition, et tout ça, en fait, en gros, est un peu une seule et grande famille. Et Vito, un truc qui a été fondateur dans la relation qu'on a eue dans le travail comme dans la vie, c'était notre amour qu'on a pour les Strokes, qui était genre un truc, on a tout de suite connecté là-dessus, quoi. Et donc, c'est un moment que je savais qu'il avait envie de faire un projet, développer un projet autour des Strokes, autour de ce qu'il aimait vraiment, quoi. Et le projet est né comme ça petit à petit, dans sa petite tête à lui, et puis il m'a parlé un jour, il me dit, mec, je pense que je vais refaire un album de reprise des Strokes. J'ai dit, c'est brillant, super idée et tout. Et donc, à ce moment-là, moi, j'étais un peu super. C'était lui, c'était son projet à lui, très personnel, donc c'était assez cher, je pense. Et il a commencé à poser les premières bases, il m'a dit évidemment que tu vas faire une reprise. Et il est en train d'une période assez passionnante parce que du coup, il s'est fait kiffer, il a demandé un peu à tous les artistes qu'il aimait beaucoup lui, et il cherchait différents horizons, différentes nationalités, comme ça pour essayer de vraiment rendre un hommage, quoi.
Ouais.
Un hommage à un album qu'il avait particulièrement marqué, tu vois, genre énormément de choses comme ça. Et donc ça a commencé comme ça.
D'accord.
Et moi, très vite, il m'a dit, choisis ta chanson. Et comme je savais que j'allais avoir, je savais que j'allais mettre peut-être plus d'efforts là-dedans que les autres, parce que je voulais vraiment pas le décevoir. Je voulais vraiment faire quelque chose à la hauteur qui pouvait vraiment me faire plaisir. Et je voulais pas tomber dans une facilité certaine. Et donc, à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, suis-moi la plus dure. Je vais prendre la plus dure à reprendre. Et Meet Me in the Bathroom, ça me paraissait particulièrement compliqué parce que j'ai pas forcément la plus grande top line, mais elle me parlait profondément à moi, notamment cette phrase « You train me how to love after you show me what I was. You show me enough time. » C'était une phrase qui m'avait particulièrement marqué toute ma vie, depuis que j'avais fait cet album. Et donc, voilà un peu la jeunesse du projet. On s'est lancé dedans à bras ouverts et on a adoré.
C'est vrai que c'est vrai. Alors moi j'avoue que c'est mon album préféré des Strokes, dont je suis ultra fan aussi. Je crois que c'est par là que je suis rentré, parce que je suis beaucoup plus vieux que toi peut-être un peu, là j'ai 41 ans, donc je l'ai écouté à sa sortie, donc j'ai vu ça, tu t'es pris la baffe qu'on s'est pris dans les années donc ça fait 20 ans,
en 2003
quand il est sorti, je devais avoir 20 piges, quoi, à peu près, 21 ans. C'était une grosse claque. Et je me rappelle de la classe que ces mecs avaient. Et quand j'ai vu ça, j'ai toujours peur, moi, des albums de reprise, parce que tu sais pas comment on va garder l'esprit, parce que c'est difficile de faire mieux, puisque quand même c'est un album culte. Comment toi, t'as envisagé la chose, toi, t'y as ajouté ta touche, mais tout en... Enfin, moi, ce que j'ai trouvé bien dans tout l'album, d'ailleurs, cela dit, vous avez gardé l'esprit des titres, quoi. Il y a un côté langoureux, toi, dans le Meet Me in the Bathroom. Alors, évidemment, il y a moins les guitares, mais il y a ce côté-là que j'ai trouvé que t'avais réussi à garder. J'ai trouvé ça super bien, quoi.
Ouais, c'est adorable. Écoute, comment je l'ai chopé, ce titre, par quel bout je l'ai pris. En gros, faire une reprise des Strokes, c'est tellement casse-gueule, quoi, parce que en fait, la raison pour laquelle les Strokes, c'est aussi bien, tout est bien, tout est ouf, de la mélodie, la parole, les harmonies et tout, mais le truc qui définit vraiment le son Strokes, c'est l'énergie. C'est le mur de son du Strokes comme ça, qui te prend dans la gueule, où tout est un peu cafouillé, pourtant ça sonne parfaitement, tout est parfait. Et tout est au milieu, en fait, du mix, comme ça, tu sais pas d'où ça vient, mais ça t'en vient, ça vient, paf, te prendre dans la gueule. Et je me suis dit, ok, bah, ça, je vais pas pouvoir le reproduire, donc, bah, je vais faire tout l'inverse. Et donc, en fait, j'ai commencé à. Je crois que j'ai travaillé par élimination, en me disant, bon, le son stroke, je vais pas pouvoir l'avoir, donc là, du coup, je vais faire autre chose. L'énergie, je vais pas pouvoir l'avoir non plus, faut que je fasse autre chose. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, c'est vrai qu'en fait, bon, bah, elle est belle et simple, quoi. La top 1 est belle, tu vois, et on peut essayer de la développer comme une balade, un peu crooner. Je voulais mettre vraiment la voix bien en avant, pour mettre les paroles en avant. Parce que justement, c'est ce qu'il n'y avait pas sur son intro.
C'est vrai.
Et à ce moment-là, je sais pas, ça a découlé comme ça. Je me baladais dans le studio, il y avait ce son de synthé que j'aimais bien. L'idée, quand même, que ça va être pam, 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 pam. C'est ce truc qui reviennent comme ça, un peu en tétant, très binaire. Très strokes, en fait. Donc, le truc a découlé à partir de ça. Et après, en fait, je vais pas te mentir quand même, je me suis vraiment, on peut dire, défoncé le crâne sur ce track. Hein. C'est-à-dire que j'y arrivais pas, en fait. j'en ai fait 8 versions. Hein. Et ça devenait presque obsessionnel, en fait. Et j'ai un premier pote qui est rentré dans le processus, mais finalement, on n'est pas allé très loin. Qu'il avait essayé de m'aider, on n'y arrivait pas.
C'est
jusqu'au moment où, en fait, j'avais une idée assez claire de ce que je voulais, là où je voulais aller. Mais j'arrivais pas à le faire et j'ai fait appel au mec qui a mixé mon premier album, qui s'appelle Félix Rémy, avec qui j'ai rendez-vous cet après-midi d'ailleurs. C'est un musicien hors pair et en fait un très très bon ingénieur du son. Et surtout un gars on travaille très bien ensemble parce qu'il voit très bien où je veux en aller. Et on n'a même pas tant besoin de discuter que ça. Et juste, il a réussi à me foutre sur le track comme ça en disant, tiens, vas-y, fais ça, en disant, fais du tempé. Et ça a fonctionné assez rapidement en une soirée, une après-midi, on avait fini le track.
Ouais. Comme quoi, parfois, faut trouver le déclic, le truc qu'il faut, et ça marche. Après, que t'aies galéré, que t'aies enregistré 8 versions différentes, je suis pas étonné. Après, en même temps,
ouais. Parce que c'est très. Mais je suis allé super loin dans la prod, aller chercher vraiment un truc. Bizarre, enfin, la structure, l'arrangement, la batterie qui rentre après le premier refrain et tout ça, c'est des décisions un petit peu cheloues à prendre, qui ont fait leur chemin. Et à la fin, on se dit, ok, c'est bien ce qu'on a fait. Mais c'est vrai que sur le moment. Au moment de prendre la décision, on stressait un peu. C'est des détails, tu vois. Par exemple, j'ai changé 4 fois de tonalité de la chanson. J'étais pas à l'aise. J'arrivais pas à la chanter. C'était pas beau et tout. Après, j'ai changé 5 fois de BPM. Plus vite, plus lentement, plus vite, plus lentement. Bon, je devenais fou, quoi. Mais à la fin, je dis, OK, là, c'est bien. Et on a réussi à faire quelque chose. Et c'est touchant, d'ailleurs, parce que tu vois, j'ai des retours sur le réseau. Et il y a des gens qui me disent, mec, j'aime vraiment ce que t'as fait là. C'est vraiment bien. C'est vraiment beau. C'est vraiment quelque chose. Donc, je suis content.
Ah bah, franchement, t'as raison d'être content parce qu'elle est très réussie cette reprise. Moi qui suis souvent, quand je vois reprise, je fais très attention. Je dis, bon, je fais gaffe parce que si tu touches à des artistes que j'adore et que tu salopes le truc, ça me fait mal. Donc, à la base, j'ai du mal à écouter. Et puis quand j'ai écouté celle-là, j'ai dit, ouais, c'est super réussi, c'est bon. Il a bossé, le mec, c'est bon, c'est bon, c'est bossé, quoi.
Inutile de préciser que moi, je suis exactement pareil. Je pars en con hein, quand je vois qu'il y a marqué reprise. Hein.
Ouais.
Et j'étais terrifié à l'idée de faire une reprise de Strokes. Hein. C'est pour ça que j'arrivais pas. C'est pour ça qu'il y avait le déclic trop tard. C'est que je me disais, mais si je fais de la merde, je vais en vouloir toute ma vie. Non, mais je disais, parce que la même chanson, elle va pas disparaître.
Non.
Elle sera toujours là. Et les gens pourront revenir en disant, ouais, c'est vraiment nul ce que t'as fait sur les Strokes. Hein. Voilà. Enfin, bref.
Alors après, moi, je suis un peu novice là-dessus, mais du coup, ça a été validé par les Strokes eux-mêmes après la reprise ou
Bah écoute, non, je sais pas trop. Je sais que tu sais, il y a les Rockle Sisters qui sont sur l'album aussi. Les Rockle Sisters sont assez potes avec les Strokes. Je sais de source sûre parce que je connais leur ingé son que Julian Casablancas était à leur concert à New York. Donc je pense qu'inévitablement, il a dû écouter leur prise et sur un malentendu, je pense qu'il a quand même dû se faire un petit kiff et écouter le reste, tu vois. Mais en tout cas, c'est un album de reprise officiel, hein, parce que on travaille en partenariat avec Sony Music. Et faudrait vérifier s'ils ont écouté, je sais pas. En tout cas, ils ne sont pas manifestés en disant, bon, voilà, qu'est-ce que tu nous fais, mon Thomas, c'est dingue. Mais ils m'ont pas envoyé un petit DM, le Julian m'a pas envoyé un DM en me disant, ça comme tu veux, quand est-ce qu'on boit une bière.
On sait pas.
Mais ouais.
un petit live à deux voix, Julien et toi, Julien Casablanca et toi sur Doha, ça serait fou.
Non, mais attends, mais moi si je rencontre Julien Casablanca, c'est déjà, je pense que je le chie à toute l'herbe de mon corps. Je dis, écoute mec, tu comprends ou pas que moi si je fais ce que je fais, enfin c'est évidemment à cause de toi. Grâce à toi, je sais pas, c'est une figure plus que prépondérante dans ma vie, Julien. C'est un mec à 14 ans qui m'a vraiment pris par la main depuis qu'il avait 10 ans et qui m'a dit, regarde, c'est ça la musique.
Ouais.
Voilà ce qu'on peut faire. Et ça continue à m'accompagner toujours autant. Hein. Mais bon, voilà. Donc Julien, si tu nous entends.
Si tu nous entends, si t'écoutes, déjà je serais super heureux qu'il écoute aussi. Mais si, si.
Julien, ouais, si tu passes tes vacances à New York.
Ouais, voilà, c'est ça. Il le fait. Alors, du coup, ça nous permet d'enchaîner sur un peu toi, dire que tu donc t'as sorti ton premier album l'année dernière, que t'as écrit, que t'as composé. Après, il y a eu les concerts. Donc là, tu viens de finir d'enregistrer l'album de reprise. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? J'ai vu que tu tournais encore un petit peu, mais est-ce que tu as commencé à taffer sur le deuxième album?
Évidemment, t'imagines bien. Écoute, j'en ai quand même un peu la tournée quand même, parce que et c'est cool. Hein, l'album a quand même fait son chemin.
Bah oui.
Et j'en suis très fier. Mais il fallait enchaîner avec un deuxième.
Mm.
Et donc à commencer en fait la phase d'écriture, ça fait déjà un an que je suis dedans.
Mm.
Ça fait un an que je suis en phase de création pure sur de la compo, sur de la recherche, sur ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie d'écrire. Et tout ça. Et donc, parce qu'on m'a croisé une copine dans la rue, hop, je dis bonjour et je dis tant pis. Et phase de recherche à mort. Et petit à petit, ça commence à se présenter.
D'accord.
Et voilà.
Donc, bientôt en studio, quoi.
Ben écoute, en fait, tu sais, je suis toujours en studio.
D'accord.
C'est ça le truc aussi. C'est-à-dire qu'en fait, j'y suis perpétuellement. Dans le sens où c'est moi qui produis tout, et c'est moi qui joue tout. Donc avant, je travaillais à la maison, mais avant, là, depuis un an, j'ai un studio qui se situe dans le Marais.
D'accord.
Et où je fais... Donc je suis toujours un peu en studio, c'est-à-dire que la phase de création, elle passe aussi par le studio directement, tu vois. Il n'y a pas vraiment de monde dans lequel je... Tout se fait un peu tout seul, tu vois. Enfin, d'un seul trait, quoi.
D'accord. Non, parce que, enfin, je te pose la question parce que tu vois, il y a des artistes qui sont en phase de production constante. Moi, il y a un groupe que je suis énormément. Je sais pas si tu connais, qui s'appelle King Gizzard and the Lizard Wizard.
Ah bah, évidemment. Ils envoient 5 albums par jour. Hein.
Bah voilà, c'est ça. Eux, ils sont en production constante, en gardant une qualité tout le temps. D'autres qui préfèrent, et bon, moi j'ai pas d'avis là-dessus, qui disent bah nous on va en concert, on arrête, et puis après, bah quand on décide de s'y remettre. Voilà, toi tu fais partie de la première catégorie, ok.
Je pense que pour King Gizzard et The Wizard, de toute façon, les mecs sont, je pense, des fous furieux et des gars qui ont une telle énergie entre eux que de toute façon ils se disent on va pas s'arrêter de faire la musique en fait, les gars, on adore ça. Moi c'est un peu différent, je suis tout seul. Et quand on est tout seul, faut aller puiser de l'énergie un peu à droite ou à gauche pour aller chercher au fond de soi-même, pour trouver ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de faire, là où on va aller. C'est-à-dire que à 5, t'as 5 fois plus d'énergie que quand t'es tout seul et 5 fois plus d'idées.
Exactement.
Et 5 fois plus de, donc 5 fois plus d'albums. Mais tout seul, c'est un peu différent. Hein. Puis de toute façon, t'imagines, ça prend 5 fois moins de temps aussi pour enregistrer pour eux. Alors que moi,
c'est ton choix, c'est toi qui avais choisi de tout faire tout seul.
Ah, c'est toi qui as voulu, hein. C'est toi qui as voulu, hein. Mais évidemment, c'est moi qui ai voulu, mais du coup, voilà, faut laisser le truc,
naître,
de tout seul et voilà.
D'accord. Parce que j'avais lu aussi quand j'ai préparé l'interview que tu t'avais envie de composer pour d'autres.
Ouais, bien sûr.
Donc, tu aurais pu dire, je produis ou je fais un ou deux albums avec quelqu'un d'autre, et puis après, je ferai mon deuxième album à moi.
Écoute, figure-toi que j'y ai pas pensé. Mais en fait, c'est pas que j'ai pas pensé, c'est que ça s'est pas fait, quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'en vu comme ça, en fait, c'est vrai que j'aurais pu faire une pause sur mon projet et me consacrer à quelqu'un d'autre. Mais. En fait, j'étais déjà lancé. Je crois que je sais plus à qui j'ai dit ça, mais c'était juste au moment où on sortait l'album. Et un mois après, en fait, je suis retombé dans une phase de création où j'ai eu pas mal d'idées qui venaient de droite et de gauche.
Ouais.
sur un projet notamment en français, sur un truc un peu concept. Et donc en fait, je me suis mis un peu au boulot, quoi.
D'accord. Bah, parce que j'ai vu que tu étais arrivé avec 40 titres. Donc je me suis dit, ouais, il produit bien, il y va bien. Quand tu es rentré de l'école Paul McCartney, tu es avec 40 titres. Donc tu as évidemment dû faire des choix pour faire ton premier album. Et je me suis dit, bah, il en avait dans sa besace, quoi. Donc,
Alors, il y avait des titres dans la besace, mais pour être honnête avec toi, je ne sais pas si je vais en recycler un seul, tu vois. 40. En fait, tu sais, il y a un peu la légende, quand pour écrire une bonne chanson, il faut écrire les 5 petites sœurs, quoi. D'abord, et puis après la dernière arrive, tu vois. Ou alors peut-être pas, mais enfin, c'est-à-dire que j'en écris plein et après on les trie, hein, mais tout n'est pas. Je crois que c'est une phrase de David Guetta, pour te dire, mais qui est pas mal, qui est le plus dur dans la musique, c'est de pas sentir les mauvaises.
D'accord.
Ça, c'est intéressant.
Il a dit ça.
Okay. Oui, il a dit ça. C'est deux états d'esprit totalement différents. Hein. Il y a des gens qui vont te dire c'est des conneries, il faut juste sortir tout ce que t'as et tu regardes ce qui se passe derrière, tu vois.
Ouais.
Et lui il dit non, faut sortir juste les meilleurs. Bon.
Ben après c'est peut-être, alors je réfléchis tout haut, hein, c'est peut-être une bêtise ce que je vais dire, mais quand tu prends toi ton concept, enfin c'est pas un concept, c'est on est à l'heure où du single, où il faut sortir tout le temps des singles, et lui finalement il sort 12 singles et voilà, et on a perdu ce côté sortir un album un peu comme toi t'as fait, où en fait on crée c'est l'album entier qu'il faut écouter. Et c'est vrai qu'avec avec Spotify, avec tout ça, il n'y a plus je mets le CD, j'écoute le CD en entier. On a des playlists et on écoute un titre de Thomas, un titre de machin, et c'est peut-être ça qui change aussi, non?
Écoute complètement, et moi je vois aucun mal là-dedans, tu vois. Si les gens veulent écouter seulement une chanson, franchement, il n'y a aucun problème, tu vois.
Bah oui.
C'est juste que moi, ça me paraissait normal d'exposer le travail dans cet état d'esprit, dans ce format, tu vois. De dire, voilà, c'est 11 chansons sans boîte, elles sont là, elles ont un sens et elles ont été composées à peu près dans un moment similaire et elles sont là pour vous, pour être consommées comme ça, quoi. Et si on arrive à le faire comme ça, bah, c'est parfait, tu vois. Parce qu'après, le public a forcément envie de s'envoyer un album de 45 minutes dans la gueule dès qu'ils ont envie d'écouter un truc un peu beau joli. Je sais pas. Et c'est pas très grave.
Non.
Mais tu vois à peu près. Mais en revanche, je suis un peu contre quand même. Tu vois, genre la dictature du single, c'est dommage. D'un côté, je trouve ça très bien parce que c'est vrai que genre la raison pour laquelle on est tous obsédés par la chanson, la pop, tout ça et tout, parce que le format dévoie tout. Le fait d'avoir une chanson, ça dure 3 minutes, tu résumes tout. Le mec, il a bossé en face de toi pour essayer de t'expliquer avec des mots, des phrases, des harmonies, des mélodies, quelque chose qui rentre dans ton oreille. Tu comprends tout de suite en 3 minutes et t'as envie de la réécouter. C'est le rêve.
Ouais.
Tu vois, genre c'est le format qui c'est la raison pour laquelle on écoute autant de musique, je pense, que parce que le format nous correspond tellement bien. Et je sais pas, alors ça faudra chercher pourquoi, mais le format fonctionne à mort. Tu vois, on adore écouter des chansons de 3 minutes comme ça. Et tout. Donc pour moi, il y a pas de problème, tu vois, sur le single. Mais c'est vrai que parfois, bah c'est bien de dérouler aussi, quoi. C'est d'aller plus loin dans l'idée, tu vois.
Bah, moi, j'aime bien quand ça raconte des histoires. Et c'est vrai que 3 minutes, c'est parfois court. Alors après, nous, comme en radio associative, moi, je m'en fous de mettre ça m'arrive de mettre des morceaux de 9 minutes comme bah, King Gizzard. Ouais. Les morceaux, ils font tout le temps plus de 3 minutes. Ouais. C'est pas grave parce qu'il faut que ça... Moi, j'aime bien que ça prenne le temps de se développer. Tout ça. Après, ça, c'est que mon avis. Hein, mais bon, après, sur les si on reprend The Strokes, tu écoutes Meet Me in the Bathroom, tu l'écoutes, il raconte une histoire de A à Z. Il y a tout dedans. Donc, en je ne sais pas combien de temps ça dure, 3 minutes, 3 minutes 30.
Ouais.
Donc,
pas beaucoup, ouais.
Pas beaucoup. On arrive à faire. On peut raconter des histoires qui deviennent intemporelles, en fait.
Mais c'est ça. Mais même, en fait, si tu vas chercher plus loin, tu vois. Un mec comme Brel, quand il raconte ces gens-là, tu vois, pour moi, il raconte, je trouve qu'il va chercher plus juste et plus fort qu'un Germinal en 600 pages. Après, c'est une façon de voir les choses, tu vois, mais je trouve que, enfin, c'est, je sais pas, tu vois, mais il y a quelque chose de génial, quoi, dans le format des 3 minutes, où en fait, tu prends vraiment le temps de peser chacune de tes syllabes, chacune de tes virgules, tu vois. Tu vas chercher vraiment d'aller droit au but. Ça passe beaucoup.
Ouais. J'y pense, ça me fait écho parce que j'ai une section où je raconte des anecdotes rock dans l'émission et on vient de passer là dans Common People de Pulp, et je trouve que c'est ça aussi, c'est l'histoire parfaite du début jusqu'à la fin, et voilà.
Voilà, bah tu vois, ça va très bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais bon, après, si on peut raconter, tu vois, une histoire qui... le rêve, et ce qu'on essaie de faire, enfin là, ce que je vais essayer de faire pour mon prochain album,
ouais.
C'est que chaque chanson raconte une histoire à part entière, et qu'elle tienne debout, et que toutes ces histoires forment une grande histoire qui a même eu du sens sur un album.
D'accord.
Ou même, là, tu vois, en fait, et d'ailleurs, je viens de te dire, là, je suis en train de me concentrer sur le format de l'EP.
Ouais.
C'est un truc encore plus que coup de poing, tu vois. Et parce que 9 titres, 11 titres, c'est beaucoup, c'est vrai, ouais, c'est beaucoup, tu vois. Moi, parfois, j'ai la flemme d'écouter 11 titres, tu vois, d'un album que j'écoute. 4 titres, c'est clair, net, précis, quoi.
Ouais.
Mais bon, voilà.
Ok, très bien. Et juste avant de terminer, alors dans l'intro, j'ai dit que je te comparais au Baxter Dury français.
Ouais.
Et j'ai vu que dans tes références, Baxter Dury, il apparaissait pas du tout. Alors que pourtant, je trouve qu'en termes de musicalité, la façon de créer, le côté crooner, c'est très très proche de ta musique, quoi.
Mais ouais, mais c'est pourquoi en fait, parce que tout ça. Moi, j'ai vécu 7 ans en Angleterre.
Ouais.
Et donc l'Angleterre a vraiment une grande place dans ma vie. Dans ma musique, dans ce que je fais, dans tout ça, tu vois. Baxter Dury, c'est un mec qui a bouffé du Gainsbourg, mais matin, midi, soir. Et en Angleterre, on l'appelle le Gainsbourg anglais.
Ah, d'accord.
Tu vois, en Angleterre, on l'appelle le Gainsbourg anglais, donc moi, c'est marrant, parce qu'on m'appelle le Baxter Dury français.
Ah, ça, c'est moi qui ai décidé tout seul.
Je dis pas on, mais tu vois, alors, fois, tu me dis, c'est le Baxter Dury français, et lui, on le dit, on est le Gainsbourg français. C'est marrant, tu vois.
Ouais.
Mais en fait, C'est une espèce de dualité comme ça un peu marrante, tu vois, mais genre, en Angleterre, pendant longtemps, on m'appelle le français, et quand je rentrais en France, on m'appelle l'anglais. Tu vois, genre, mais en gros, voilà, t'as les influences qui sont là, qu'on a en commun, je pense, mais j'aime beaucoup la musique de Baxter Dury.
Ah bah, elle est géniale.
Sûr, évidemment, bah, je l'ai pas commencé à pas aimer, tu vois, avec son accent un peu crado, un peu bien cockney, comme ça et tout. Non, il sort qu'une boule, comme ça. il est énorme, il est très drôle. Et voilà, non, mais ça me fait super plaisir en tout cas. Et je sais qu'il a écouté ma musique et je sais qu'il aime bien.
Ah, oh bah alors ça, tu devais être content quand t'as entendu ça.
Ouais, bah ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait super plaisir parce que j'ai une copine en commun qui s'appelle Marie-Flore.
D'accord.
Qui est chanteuse. Et qui lui a envoyé un petit compliment d'ailleurs qu'il a fait. Il me dit c'est vachement bien. Après, elle dit Is he British?
De quoi?
Il pensait que j'étais anglais.
Ah!
Ah, ça fait plaisir. Si Baxter Dury pense que je suis anglais, ça me fait plaisir.
Ah oui, parce que lui, il a l'accent à couper au couteau.
Ouais, bien cockney, bien dangereux, comme ça, c'est marrant.
Pourtant, toi, je trouve pas que t'as... Enfin, j'ai pas trouvé que t'avais un accent particulier à ton anglais, mais bon, bref, c'est peut-être lui. Bref.
Non, ça va. Moi, je dis pas. C'est pas cockney comme lui, quoi.
Non.
Lui, on a vraiment l'impression d'un grand star de XX, quoi. Le mec.
Ouais.
Le mec vient d'East End et voilà, quoi.
Ok.
Mais
bon. Bon. Et alors, j'ai une question très, très, très fan absolue. Donc, tu sors de l'école de Paul McCartney. Est-ce que tu l'as vu, Paul McCartney, ou pas?
Ah putain, non mais ça me fait. C'est dur que tu me poses la question, tu sais. Écoute, figure-toi que mon polo venait tous les ans donner les diplômes.
Ouais.
À tout le monde. Sauf que la remise de diplôme, j'y suis pas allé.
Oh!
Je suis pas allé. Pourquoi je suis pas allé? Parce que c'était trop dur de retourner. C'était 2 ans après le Covid. Tu sais, il y a eu le Covid.
Ah oui.
Et 2 ans après, on nous proposait de revenir. Et revenir là-bas, je savais que ça allait remuer des choses. Parce que j'avais quitté cette ville en ouragan, tu vois. En 2 secondes, j'étais parti. Pour revenir là-bas, j'avais fait mon deuil.
D'accord.
Je voulais pas remuer quelque chose, tu vois. Je voulais pas revoir des choses. Et en plus de ça, tu sais, c'était un peu c'est toujours délicat. Tu retrouves des gens que t'as pas eu depuis longtemps. Le catch, enfin, il y avait quelque chose d'un peu douloureux. Et surtout, je pense que, genre, rencontrer mon idole de tous les jours, hein, juste pour lui serrer la pince entre 600 pélos, je pense que ça m'aurait fait un peu chier aussi, en fait. C'est pas idiot, tu vois, mais genre.
Ouais.
Bon, j'aurais tellement aimé lui dire à quel point il a compté dans ma vie. Si c'est pour juste lui dire, oh, thank you, good man, you're okay. Et il se barre, bon, c'est dur, quoi.
Ouais. Oui, t'aurais aimé discuter avec lui un peu plus. Mais comme c'est son école, moi j'avais pensé que peut-être il passait une tête de temps en temps.
Mais
quoi.
Non, mais il y passait de temps en temps. Hein. Il y passait de temps en temps. Mais j'ai jamais pu le rencontrer, malheureusement.
D'accord. Ok. Très bien. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. Et en plus, tu nous fais un super cadeau parce que tu vas nous enregistrer une version live de Meet Me at the Bathroom. On va l'écouter tout de suite. Donc, bah merci encore. Et puis, bah écoute, je te souhaite une, comme on dit, bonne chance pour la suite. J'espère que l'album sortira bientôt. Que peut-être que tu viendras faire un tour par chez nous en concert. Je sais pas si c'est prévu que tu ailles dans les salles. Dans les salles, on a quelques salles de concert, on a quelques festivals, on a le festival Nouvelle Scène à Niort qui accueille des nouveaux artistes, donc ou à la Sirène, à La Rochelle, qui est pas loin du tout. Et puis, passe une bonne fin de journée.
Salut mec, salut. À très vite, ciao ciao. When they say promises, they mean promises. C'était Thomas Garlet qui reprenait The Stroke et Meet Me in the Bathroom pour une session live en exclusivité pour l'émission. Merci encore beaucoup à lui pour l'entretien et pour cette session live. Nous, on va enchaîner avec, sans aucune transition, avec les Saint-Ongeais de Lysistrata qui reviennent solides sur leurs applis pour nous proposer un nouveau projet qui sortira en 2024 après leur belle escapade avec François Atlas et l'excellent projet Park et leur deuxième album Breath and Out. Ils nous proposent un single plus positif, plus mélancolique, ça s'appelle Horns. On écoute tout de suite Lysistrata et Horns. You beat your wings.
stones. Will you tell us who we are?
C'était Lysistrata et Hounds. Et franchement, c'est un super beau titre. Et j'ai hâte d'en entendre plus. Je suis un peu hypé par ce projet. À suivre donc, puisque le projet est annoncé pour 2024. J'aimerais bien les avoir en interview, les gens de Lysistrata. Il faudrait que je rentre en contact avec eux pour la sortie de leur album. Ça pourrait être très très chouette. Bref, ça va être déjà l'heure de se quitter. On est déjà à plus d'une heure d'émission. Et alors, pour ce qui était d'habitude, on finit par la soul, mais là, j'ai pas de soul à vous mettre dans les dents. Par contre, je voulais vous faire écouter le nouveau single de Yard Act, que vous connaissez très bien, puisque c'est un groupe que je vous envoie beaucoup de titres. Ils vont sortir leur nouvel album, Where Is My Utopia, le 1er mars prochain chez Island, et ils ont dévoilé un premier extrait qui a tout de suite cartonné, c'est très dansant, c'est très punchy, et donc bah, d'habitude c'est soul à soul, cette fois-ci c'est plus punchy, c'est plus dansant. Alors c'est même si c'est de la musique punk, est-ce qu'on peut dire que c'est dansant? Moi je dis que c'est dansant, donc on va considérer que c'est dansant. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine émission. D'ici là, n'hésitez pas à écouter Radio Gatine, n'hésitez pas à consulter furieusement le site Another Whiskey for Mr. Bukowski, qui est mis à jour chaque jour, avec des nouveaux articles et des nouveaux artistes à découvrir. N'hésitez pas non plus à jeter une oreille sur les anciennes émissions de Des Chips et des Lèvres qui sont disponibles sur toutes les plateformes, tous les réseaux, sur le site de Radio Gatine. Vous tapez Des Chips et des Lèvres sur Google, vous avez 15 liens possibles pour nous écouter. Et du coup, moi, je vais vous dire au revoir, à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et on termine l'émission comme promis avec Dream Job de Yard Act. C'était Charles et je vous dis à très vite. Ciao.
a singular mind. And we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss,
that's boss,
class, sweet, geese, not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my god, it's ace! Just look at my face. I'm on top of the world.
Then,
of course it is.
Boss.
Why can't we travel in business class? Slap the pot because life is
sweet.
So neat, it can't be beat. It's
geese.
Slap me, it's decent.
Not bad.
It's alright, yeah.
Step into my office. Oh.